Figaro Radio.
Le Buzz TV.
Damien Canivez et Cécile Brulot.
Figaro Radio.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Aujourd'hui, nous accueillons sur ce plateau un journaliste grâce auquel vous avez croqué pendant des années les informations les plus importantes à l'heure du petit déjeuner. Alors, est-ce qu'il a terminé sa mission d'informer ? Eh bien, pas du tout. Il officie aujourd'hui dans le costume de Joker du journal de 13h sur France 2. Et s'il vient nous rendre visite aujourd'hui dans ce studio, c'est parce qu'il fête l'anniversaire d'une émission grâce à laquelle on peut voyager dans les couloirs du temps. Bonjour Nathanaël de Ringsin.
Bonjour, bonjour à tous les deux.
Bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Rien à voir avec le vieux mage dans les visiteurs. Hein. On voyage dans les couloirs du temps avec vous, mais c'est grâce à l'inattendu.
Alors, voilà. c'est un petit peu ça. C'est l'émission qui décrypte l'actualité du quotidien grâce aux archives de l'INA.
Ouais.
Et l'INA, c'est des millions et des millions et des millions d'heures d'archives. Il y en a un petit peu partout. C'est très intéressant. D'ailleurs, je vous invite à venir visiter les endroits où sont stockées les archives de l'INA. C'est incroyable, même si là, l'essentiel est en train d'être digitalisé, parce que l'INA est une entreprise qui a considérablement rajeuni
oui.
et qui aujourd'hui fait plein de choses, notamment sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et voilà, on peut consulter les archives de l'INA quand on veut.
Alors justement, les téléspectateurs doivent se demander quand est-ce qu'on peut voir Nathanaël de Ringsin aux commandes de l'Inattendu. C'est chaque jeudi, donc à 21h20 sur France Info, donc c'est le canal 27 de la TNT, hein, on
Exactement,
le rappelle.
Ouais.
Et vous allez fêter donc ce jeudi le 100e numéro de cette émission. Alors c'est vrai qu'avant de parler de cette émission anniversaire, je voulais vous demander, est-ce que c'est le genre d'émission dans laquelle je vais sombrer dans une profonde nostalgie ? Parce qu'on voit, c'est vrai, des images qui ont été diffusées par le passé et on se dit parfois, c'est vrai que c'était mieux avant quand même.
Alors, je vais vous dire, il y a un petit côté Madeleine de Proust, forcément. On va replonger dans des périodes, c'est des couleurs, c'est des cravates,
ouais.
c'est des fringues, c'est parfois le grain aussi de l'image, hein, parce que toutes les images n'ont pas la même qualité. Il y a eu le film, il y a eu les cassettes bêta,
oui.
et aujourd'hui on est à l'ère du digital. Donc là, ce sont des époques un petit peu différentes, mais c'est vrai que moi quand je regarde, alors je suis né dans les années 70,
ouais.
Et c'est vrai que quand je regarde les images d'une télévision qui me rappelle celle que je regardais avec mes grands-parents, avec mes parents quand j'étais petit. Forcément, j'ai une petite sensibilité. Donc, le côté années 70, début 80, avec des couleurs et des pulls horribles. Quoi,
vous n'assumeriez pas aujourd'hui en 2023,
totalement
de toute
pas
façon. Et comment cette émission est née ? Parce que c'est une super idée, quelque part, de mettre l'actualité en perspective avec des images d'antan. Comment cette idée est-elle née ?
Alors, c'est une collab entre l'INA et France Télévisions, France Info. L'idée est née avec Laurent Guimier, qui, il y a 3 ans, m'a proposé de travailler donc avec la rédaction de l'INA.
Qui était le directeur de l'information à l'époque de France Télévisions.
Exactement. À l'époque, c'était même de France Info.
Oui, exactement, donc, c'est vrai, vous avez raison.
Et donc, on a construit cette émission ensemble, ce côté. On prend un sujet d'actu, on regarde ce qui se passe, on regarde comment c'était avant et on essaye de mieux comprendre ce sujet d'actu grâce aux archives de l'INA. Je vais vous prendre un exemple ouais. hyper concret. En ce moment, il y a une mobilisation contre la réforme des retraites.
Oui.
Ce n'est pas la première fois en France. Et donc, on a dépiauté un petit peu les images des mobilisations passées contre la réforme des retraites avec un invité, Bernard Thibault. Et on a regardé, est-ce que ça fonctionne ? Quand ça fonctionne, les mobilisations ? Quand ça ne fonctionne pas, justement. Ouais. Et on essaye de comprendre un petit peu, d'imaginer un petit peu ce qui peut se passer par rapport à aujourd'hui. Alors, ça nous permet de remonter le temps, hein, et de voir dans les années 90, dans les années 70, un petit peu avant, peut-être encore, pour voir comment les gens réagissaient à l'époque et la manière dont ils se mobilisaient.
Eh bien, c'est passionnant, on va parler dans quelques instants parce que vous nous réservez de nombreuses surprises pour ce 100e numéro. Mais tout d'abord, on va découvrir les news médias présentés par Cécile Brulot. Bonjour Cécile.
Bonjour Damien, bonjour Nathanaël.
Bonjour
Cécile, c'est parti. On va commencer ces news médias avec des déclarations tonitruantes d'Yves Bigot.
Succession de fausses notes pour l'Eurovision. Après les multiples frasques de la Zara, représentante de la France au concours de chant cette année, l'ancien patron de France 2 en a remis une couche ce dimanche dans ses médiatiques. Yves Bigot a affirmé sous couvert de raisons financières qu'il avait eu pour ordre de perdre à l'Eurovision. Chaque année, le pays gagnant se doit d'organiser l'édition suivante, une dépense qui s'élève à 20 voire 25 millions d'euros pour les chaînes de télévision. Je cite, « Les chaînes n'ont pas cet argent ». Sauf dans des petits pays, le ministère du Tourisme finance, a-t-il expliqué à Mélanie Taravant, avant de rappeler qu'à l'époque où la RTBF avait remporté l'Eurovision, En 1986, son ancienne maison avait dû licencier près de 2000 personnes.
Eh bien, vous pensez que c'est à cause d'un vaste complot financier que la France ne remporte pas l'Eurovision, Nathalie Eldorin?
Alors, si seulement c'était à cause d'un vaste complot financier, on changerait tout de suite et on remporterait l'Eurovision. Non, mais je crois que l'Eurovision, effectivement, ça coûte des sous à organiser. Mais je crois que France Télévisions assume totalement. Et là, ils ont organisé l'Eurovision Junior l'année
dernière.
Oui, tout à fait. Et les Français ont encore gagné.
Oui, tout à fait, exactement.
Donc voilà, je pense que Delphine Ernotte est ravie quand la France gagne et que France Télévisions peut s'investir et promouvoir l'image de la France. Il n'y a pas de souci. On organise les Jeux Olympiques en 2024 et les Jeux Paralympiques. Et voilà, ça coûte
on va devoir aller quand même brûler quelques cierges à l'église en espérant de gagner cette année quand même.
Je ne sais même pas ce qu'elle chante par contre, je n'ai pas suivi.
Moi non plus, mais bon, en tout cas, on parle de l'Eurovision, pas forcément pour de bonnes raisons en ce moment. Allez, on poursuit ces infos médias avec, alors là, une triste nouvelle, le décès d'un acteur phare de Plus belle la vie.
Oui, Michel Corde avait fait les beaux jours du feuilleton de France 3. Vendredi soir, l'interprète de Roland Marcy, emblématique patron du bar du Mistral, a été retrouvé mort par arme à feu à son domicile aux alentours de 15h. Le parquet de Montpellier a avancé que la piste du suicide est privilégiée. Dimanche, les voisins de l'acteur, dont le personnage avait été tué à quelques épisodes de la fin de la série, ont raconté avoir trouvé trois lettres alignées, une pour sa fille, une pour les gendarmes et même une pour l'administration fiscale. Michel Corde avait 77 ans.
Alors, Plus belle la vie, c'est évidemment culte, un feuilleton culte sur France Télévisions. Est-ce que vous regardez, vous, les feuilletons à la télévision, Nathanaël Dorin?
Alors, je regarde régulièrement Sous le soleil.
Ah, Sous le soleil. Grand soleil.
Un si grand soleil.
Parce que Sous le soleil, ça existe aussi.
C'est
mais bon, normalement, je ne l'avoue pas.
Non, j'aime beaucoup et j'ai eu la chance de visiter les studios de Vandargue, de Montpellier, où Un si grand soleil est tourné. Et je trouve ça absolument génial, la technologie utilisée pour fabriquer cette production.
Voilà. Vous aimeriez y jouer peut-être pour un petit rôle dans ce genre de série?
Ça me ferait vraiment marrer.
C'est vrai.
J'adorerais avoir un petit rôle au cinéma ou à la télévision. C'est un milieu que je ne connais pas du tout et qui m'intéresse vraiment.
Parfois, c'est vrai que des journalistes présentateurs, notamment, endossent leur propre rôle dans des séries, dans des fictions, dans des films au cinéma. C'est déjà arrivé pour vous?
Oui, ça m'est déjà arrivé il y a quelques années. Mais alors, j'avais là une tâche assez facile parce qu'ils prenaient un extrait d'un JT et donc il y avait le texte qui était sur le prompteur et j'ai lu ce qu'il y avait sur le prompteur. Donc j'ai fait un petit peu comme d'habitude. Mais
et c'était pour quelle fiction?
C'était un film.
Ah, c'était un film.
C'était un film avec Louane.
Ah oui, c'était la famille Bélier peut-être
Non, c'était pas la famille
Bélier. C'était pas la famille Bélier.
C'est horrible.
Bon, en tout cas, vous en gardez un souvenir incroyable.
C'est un film sur la jeunesse. Je m'en veux terriblement.
Je ne peux pas vous aider, malheureusement.
Parce que je n'ai quand même pas tourné tant de films.
Non, c'est sûr, mais bon, en même temps, si ça a pris 5 minutes, mon trauma, on peut comprendre que voilà, ce soit peut-être partie de votre mémoire. Allez, on termine ces infos médias avec le chiffre du jour et vous avez choisi le 3, Cécile.
Oui, 3 millions de téléspectateurs pour le lancement de la série Bardo sur France 2, ce qui représente 14,5% de part d'audience. Le biopic de 6 épisodes, fruit de 10 ans de travail pour Daniel et son fils Christopher Thompson, n'a pourtant pas été regardé par la principale concernée. Elle avait confié au journal du dimanche « Je ne suis même pas au courant de ce truc, mais je m'en moque. La seule chose qui importe, c'est ma vraie vie avec moi dedans et pas des biopics à la con. » la comédienne surnommée Bébé a annoncé qu'elle participerait à un documentaire pour TF1.
Vous regardez quoi, vous?
Alors moi, je regarde un petit peu.
Regarder ça.
Non, je regarde beaucoup les JT, mais ça, c'est bon. Voilà, ça fait partie du job, on va dire. Je suis un consommateur. Je suis davantage aujourd'hui plateforme que télé
plus
en direct,
Netflix, voilà. Netflix, Amazon Prime peut-être.
Voilà, exactement. Ou un petit peu ce qui se passe. Je suis assez curieux. J'ai pas mal d'abonnements. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Voilà, moi, j'ai trouvé ça très bien fait. En tout cas, c'est une belle série. Comme France Télévisions, c'est enfer.
Alors, vous animez donc chaque semaine, c'est à 21h20, l'inattendu sur France Info. Et ce jeudi 11 mai, donc je disais, vous allez célébrer le 100e numéro. Alors, pour ceux qui n'ont jamais eu la curiosité de regarder ce magazine jusqu'à maintenant, comment cette émission se découpe-t-elle? Est-ce que vous avez systématiquement un invité fil rouge, comme ça sera le cas lors de ce 100e numéro? Est-ce qu'il y a des séquences? Comment ça se passe?
Alors, normalement, l'émission est séparée en deux, avec deux dossiers et un invité, deux thématiques et un invité. Là, exceptionnellement, pour ce 100e numéro, on a une émission qui ne fait pas 27 minutes, mais qui fait 40 minutes.
Ouais, très étendue.
Exactement, avec quatre séquences, quatre dossiers différents, quatre thématiques et un invité transverse. On s'est dit, tiens, quel invité on va choisir? Et là, tout de suite, il y a un invité qui ressort, qui est présent dans les différents moments de sa vie, dans les archives de l'INA, c'était Noël Mamère, qui a été présentateur de journaux télévisés, d'émissions, qui ensuite est devenu militant, candidat écolo à la présidentielle, puis député, puis maire. Donc il apparaît à différents moments de sa vie, de ses vies dans les archives de l'INA, et il correspondait assez bien à ce qu'on avait envie de montrer. En plus, c'est quelqu'un qui a une... C'est un bon client, voilà, comme on dit dans le métier. Et donc, on a travaillé avec lui. On a identifié les différentes thématiques, donc les quatre thématiques que l'on souhaitait aborder. Et alors, il y en a une qui tombait, je pense, sous le sens, c'était les présentateurs JT. Ouais. On a fait l'évolution des présentateurs JT et donc des lancements des présentateurs JT des années 50 à nos jours. C'est plus le même métier, c'est plus tout à fait la même histoire. Donc ce métier a évolué, on a appris, les présentateurs ont appris à faire évoluer leur métier. Mais à l'époque, c'était drôle d'avoir des lancements qui faisaient 2-3 minutes où le mec donnait son avis.
Alors qu'aujourd'hui, c'est en seulement 10 secondes. Quoi.
Voilà, c'est en tout cas, c'est beaucoup plus court. Après, on parle de la fin de vie. C'est dans l'actualité, c'est un sujet qui est cher à Noël Mamère et il nous explique pourquoi dans l'inattendu. Ouais. Là, je fais un peu de teasing.
On va regarder donc.
On s'est intéressé aussi à la manière dont l'environnement s'est médiatisé. Ouais. Et il a été pour beaucoup, il a été candidat à la présidentielle en 2002. Il a su faire des coups, Noël Mamère. Je pense que son regard de spécialiste des médias, de la télévision, de journaliste, a beaucoup apporté à son parti. Et on a terminé, bien sûr, avec le mariage pour tous. Noël Mamère, en 2004, a été le premier maire à marier un couple homosexuel. À l'époque, c'était illégal. Ouais. Et alors, c'était hyper fort. Je ne vais pas tout vous dévoiler, mais il y avait des larmes à l'époque. Et sur le plateau, quand on a enregistré l'émission, je crois qu'il avait les yeux encore un petit peu humides. Ouais.
Mais vous énumérez son parcours, il a mille vies, c'est Noël Mamère. Quel regard vous portez sur ses multiples carrières ?
De Noël, je pense que c'est quelqu'un qui a toujours été très honnête avec lui-même, avec sa pensée. Je pense qu'il a fait le journaliste, parce que le journalisme est un métier qui correspondait à son envie, sa curiosité. Et puis petit à petit, il s'est posé pas mal de questions. On lui demande dans l'émission si, à un moment de sa vie, il était journaliste militant. Et il nous confie qu'effectivement, il avait déjà des idées. Et forcément, il y avait un prisme qui était assez fort pour porter les idées écolo. Et donc, assez naturellement, il s'est investi dans la politique. Avec la présidentielle, puis après dans sa commune de Bègles et en tant que député. Je crois que c'est quelqu'un c'est quelqu'un d'honnête, quoi. C'est quelqu'un de droit, quelqu'un de... Il est formidable, moi je le trouve formidable. C'est vrai, c'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié voir en tant que journaliste et même en tant qu'homme politique, il a toujours une rigueur que je trouve très intéressante.
Alors c'est vrai que Noël Mamère, vous l'avez rappelé, Cécile, a eu mille vies, mais ce n'est pas le premier à passer du journalisme à la politique. On en a vu beaucoup par le passé. Claude Sérillon aussi, qui a présenté des JT, plus récemment Bruno Roger Petit, par exemple. Est-ce que vous avez pensé un jour à vous investir en politique ?
Claude Sérillon et Bruno Roger Petit n'ont pas de mandat.
Oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est vrai.
Ils se sont engagés avec, avec des hommes politiques.
Tout à fait.
Mais ils n'ont pas de mandat.
C'est vrai. Alors, ils ont mis leur carte de presse de côté pour s'investir un peu plus dans l'arène politique.
Non, ce n'est pas quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Ça changera peut-être un jour. Mais là, pour l'instant, non, ce n'est pas du tout
C'est pas dans vos projets à court terme, quoi.
Voilà. Alors, juste, il y a un truc génial dans l'inattendu, dans le centième numéro, c'est le portrait de Noël Mamère avec les archives de l'INA.
Ah oui.
Et là, en 3 minutes, vous avez 3 minutes de Noël Mamère qui sont absolument dingues. Le seul point commun, vous savez quoi, dans ces trois
c'est
minutes,
quoi
c'est sa moustache.
Ah, ça, il l'a jamais coupé, même aujourd'hui en 2023. On le verra avec une moustache, donc vous nous rassurez. Bon, ça va alors.
Comment est-ce que vous avez choisi ces images? Parce que vous lui avez aussi laissé carte blanche. Est-ce que vous en avez discuté? Comment est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les coulisses?
Oui, alors c'est un petit peu un échange. Nous, on a les archives de l'INA, donc avec des documentalistes qui vont développer, porter les sujets, qui font un travail remarquable, justement pour trouver les bonnes archives, les bonnes séquences. Nous, on lui a dit, tiens, il y a ça, et ça qui peuvent vous intéresser. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui peuvent vous intéresser? Oui, moi, j'aimerais bien parler de la fin de vie, effectivement. La fin de vie, c'est dans l'actu en plus. Donc, on regarde et on lui propose, il dit, il y a ça. Et on se met d'accord sur les sujets, les angles que l'on va développer. Après, ce qu'on a dans l'émission, les dossiers sont portés par les journalistes de l'émission qui travaillent avec les documentalistes de l'INA et qui vont donc préparer. Et Noël était souvent présent dans ces archives, on ne va pas se mentir, mais pas tout le temps. Mais après, pour nous, c'est un plus formidable d'avoir un témoin de l'époque des archives en question qui nous raconte comment c'était à l'époque, et le mariage pour tous en 2004, ou la présidentielle en 2002, et la manière dont il l'a vécu. Vous voyez, on est vraiment dans le témoignage. Quoi.
Et est-ce que parfois, lorsque vous regardez ces images, vous vous dites « c'était mieux avant », clairement ?
Je ne fais pas partie de la catégorie des gens qui disent « c'était mieux avant ». De temps en temps, je me dis « tiens, bon, c'est peut-être un peu moins bien aujourd'hui, mais il faut avancer ». Donc on a tous vécu des époques différentes, la vie avance.
Mais qu'est-ce qui était mieux avant, selon vous, aujourd'hui? Quand vous comparez l'époque de 2023, par exemple, avec celle dont vous pouvez parler dans l'inattendu, est-ce qu'il y a des choses vraiment où vous dites « franchement, là-dessus, j'aimerais bien retourner un petit peu dans le passé », mais peut-être juste sur cette thématique?
Sur les thématiques de Noël
par exemple, ou même sur d'autres que vous avez traitées dans cette émission, où vous vous êtes dit à un moment donné, c'est flagrant, là, franchement, en 2023, on n'a pas forcément évolué dans le bon sens.
Alors, on est vraiment pas, justement, à mettre en avant le « c'était mieux avant ». Je vous donne un exemple d'une thématique qu'on n'a pas encore développée, mais ça devrait arriver bientôt, le baccalauréat.
Ah, voilà. Ouais.
Un sujet... Ouais. Qui fait causer, tout le monde dit que c'était mieux avant.
Absolument, parce qu'on ne le donnait pas.
Ce qui est intéressant, si vous épluchez les archives, c'est qu'à chaque époque, on se dit c'était mieux avant, c'était mieux avant, c'était mieux avant. Franchement, moi j'ai un fils qui passe son bac aujourd'hui.
Il ne le vole pas.
Il ne le vole pas, il travaille énormément, il va avoir un très bon bac. Ouais. Et aujourd'hui, je pense qu'il a un meilleur niveau que je ne pouvais l'avoir il y a 30 ans.
Et quelques années. Bon, on dira 30, ça vous arrange peut-être.
L'une des thématiques est l'évolution du rôle des présentateurs. Vous qui êtes journaliste, est-ce que c'était par exemple peut-être plus plaisant d'exercer dans les années 90?
Alors non, là pour le coup, je pense que c'était pas mieux avant les lancements des journalistes parce qu'ils étaient souvent trop longs, parce que on était à une époque où il y avait moins de chaînes de télévision, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc pour s'informer, vous aviez 2-3... chaîne, pas plus. Et donc forcément, vous aviez un présentateur qui était assuré de faire plus de 35-40% de part de marché.
Il était leur majesté, quelque part.
Donc voilà. Et ils prenaient, je pense qu'il n'y avait aucune précaution d'emploi sur l'utilisation des lancements. C'est quoi un présentateur? C'est quelqu'un qui va accompagner le téléspectateur, qui va le prendre par la main pour lui raconter l'histoire de l'actualité, qui va lui donner les clés pour bien comprendre, mieux comprendre les sujets qu'on va diffuser dans le JT. Il y avait peut-être plus de présentateurs vedettes à l'époque. Aujourd'hui, les présentateurs sont peut-être un petit peu moins vedettes, en tout cas, il y en a beaucoup moins, mais ils sont beaucoup plus concernés par les lancements. Je ne vais pas me faire des potes avec les présentateurs.
Mais vous avez raison, c'est un fait.
Toute cette défiance qu'on a maintenant autour des médias, beaucoup de gens ont une défiance médiatique. Vous êtes heureux, vous, dans votre rôle de journaliste maintenant ?
Moi, je suis hyper heureux dans mon rôle de journaliste. Je suis hyper heureux à France Télévisions. Je pense qu'il y a une défiance qui apparaît régulièrement. Et voilà, c'est peut-être que certains journalistes, peut-être que certains médias ont fait des erreurs. Et c'est à eux de corriger le tir. C'est à eux de prouver aux téléspectateurs que les informations qu'ils donnent sont honnêtes et vérifiées. Mais c'est compliqué aujourd'hui d'informer avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux, avec l'intelligence artificielle, avec ces images que l'on voit surgir sur les réseaux sociaux, où effectivement on voit les gens faire des choses et on se dit « oh là là, dis donc, t'as vu ce qu'il a fait ?» Et comment concevoir que c'est une image qui a été créée de toute pièce, quoi. Donc vraiment, le rôle des journalistes... Et plus nécessaire, encore plus important qu'avant. Vous voyez, c'était pas mieux avant. C'est aujourd'hui, les médias, les journalistes ont un rôle nécessaire, justement pour certifier la véracité des informations qu'ils donnent. Quoi. C'est eux qui vont dire, ça, cette information, cette image, cette photo, elle n'est pas bonne. On a vérifié et on est là pour ça.
Et justement, ce travail d'explication, vous le faites aussi dans le 13h hein, de France 2. Vous êtes le joker de Julien Bugier. C'est pas dur de tirer un trait sur les vacances scolaires quand même. Vous qui êtes papa en plus.
Non, oui. Alors, je pose quand même un peu de vacances pendant les vacances. Et Julien travaille aussi pendant les vacances. Il y a plein d'avantages à travailler pendant les vacances, c'est qu'il y a moins de monde sur la route.
C'est vrai, vous avez raison.
C'est la vie d'un joker, hein, si j'ai signé. Ouais. Si je veux prendre mes vacances pendant les vacances...
Vous deviendrez titulaire.
Je deviendrai, ouais, ou j'arrêterai. Je n'avais pas pensé à cette option, mais effectivement.
C'est une de vos... Est-ce que vous pourriez un jour souhaiter être titulaire, devenir titulaire de JT?
Je l'ai déjà souhaité. Après, c'est la direction de France Télévisions qui fait des choix, ouais. Mais moi, je suis prêt. C'est le principe du joker, c'est qu'il est là, il arrive, et il rend le journal, le bureau, dans l'état dans lequel il l'a laissé. Donc, moi, quand Julien s'absente, je le remplace. Et a priori, les gens ne voient pas la différence. Quoi. L'équipe, en tout cas, ne voit pas la différence. Les audiences ne bougent pas. C'est mon métier de joker. Et il est là, il est bien fait. Voilà.
Et justement, donc, vous êtes papa. Vous avez, le dernier enfant n'a pas encore 3 mois, je crois.
Hein, ouais, il a 2 mois et 12 jours.
Ça, vous n'avez pas l'air d'être trop fatigué. Apparemment, ça se passe plutôt bien.
Non, parce que là, il est parti avec sa maman pendant quelques jours chez ses grands-parents.
Donc, chanceux papa, en plus. Et justement, je voulais vous poser cette question-là, Nathalie Lorenxin. Quand on a des enfants, quel regard porte-t-il sur votre carrière? Vous êtes une figure médiatique. Est-ce que vous en parlez à la maison, justement, des informations, de l'actualité? Comment ça se passe?
Alors, on parle de l'actualité à la maison, il n'y a aucun souci. Après, moi, mon France Télévisions, quand je sors de France Télévisions... Ouais. J'emmène pas France Télévisions chez moi.
Ah d'accord. Okay.
Je vais pas raconter mes histoires de bureau, mes problèmes, mes soucis, mes questions. C'est vraiment j'ai une vie. Mes amis sont pas journalistes à France Télévisions. Ouais. J'ai aussi des amis journalistes à France Télévisions, mais ceux que je vois le plus souvent ne sont pas journalistes à France Télévisions. Mon épouse n'est pas journaliste à France Télévisions, n'est pas journaliste. Donc voilà, j'ai pas de. Après,
une vraie déconnexion.
Totalement. Mais alors un point que vous n'imaginez même pas. Ouais. Et je parle de l'actualité avec mes enfants, je leur ai jamais demandé s'ils étaient fiers de leur papa. En tout cas, j'essaye en tout cas de leur donner des valeurs professionnelles, d'amour de mon travail, qui sont très importantes. Je veux qu'ils voient un papa qui part bosser le matin avec le sourire et qui rentre avec le sourire, en tout cas. Et ils font des métiers qui sont d'ailleurs pas du tout tournés vers le journalisme. Ma fille aînée va être médecin.
Ah oui,
effectivement. Le deuxième, il est en train de devenir commissaire-priseur. Donc, c'est vraiment, on est sur autre chose.
On est vraiment sur deux domaines différents.
Mais est-ce que vous veillez à la manière dont il s'informe, en tout cas, sans parler de votre métier?
Je veille à ce qu'il s'informe. Voilà. Ça, c'est pour moi, ça fait partie des choses de la vie, de savoir ce qui se passe, l'actualité, c'est quoi cette réforme des retraites, c'est quoi le 8 mai 45. Ça fait partie de... on va dire, de la culture générale. Et ils ont ce réflexe d'ouvrir un journal, de regarder un journal. Après, ils vont utiliser peut-être le Figaro sur le
tablette,
site internet, en tablette. Et c'est différent. Ils ne s'informent pas de la même manière que moi. Mais ce n'est pas grave. Ils s'informent. Et je ne les contrains pas à regarder le 20h de France 2 tous les soirs. En revanche...
Vous leur interdisez de regarder celui de TF1, et ça, c'est pas cool.
Alors jamais. Pour le coup, je suis vraiment très, très ouvert, et je regarde aussi le journal de TF1 et aussi le journal de Marie-Sophie Lacaro. Enfin, vraiment, j'ai pas de souci avec ça. Par contre, je veux que mes enfants s'informent. Ouais.
Alors aussi, je le disais tout à l'heure en introduction, vous avez accompagné des millions de téléspectateurs dans Télématin aussi. C'était de 2008 à 2019. Vous êtes resté en contact avec William Lémergie, qui a incarné cette tranche pendant des années, avec lequel vous aviez une complicité assez singulière à l'antenne.
Alors, on a des échanges souvent par tierces personnes. On se salue. Après, il a choisi sa vie
sur C8.
Sur C8. Et voilà, mais c'est très clairement, c'est quelqu'un qui compte dans ma vie, qui a toujours compté, qui a toujours été présent dans les moments compliqués que j'ai pu traverser. Et voilà, j'ai adoré ces combien 15
15 ans, 15. Ouais, c'est ça, de 2008 à 2010. Je peux pas vous aider. Pour le coup, j'ai eu le baccalauréat, on en parlait tout à l'heure, mais pas forcément avec une excellente note
et
en maths.
Voilà. Et voilà, j'ai adoré cette période à Télématin.
Et juste une dernière question, parce que le temps passe, vous ne présentez plus aussi les journaux, parce qu'il fallait aussi que vous changiez de rythme à la suite de l'AVC que vous avez été victime aussi en 2008.
C'est ça, parce que présenter un journal à Télématin, ça nécessite de se lever à 2h du matin. Ouais. C'est trop tôt.
Voilà, c'est trop tôt. Et on vous comprend, Nathanaël de Rinxin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous célébrez donc le 100e numéro de L'Inattendu. C'est ce jeudi 11 mai à 21h20 sur France Info, le canal 27 de la TNT, si vous posiez encore la question. Merci encore d'avoir accepté notre invitation.
Bonne journée à toutes et à tous.